Bonjour à chacun, je vous invite à ouvrir la parole donc dans l'épître aux Colossiens. Colossiens que nous avons commencé la semaine dernière au chapitre 1 et nous allons lire la deuxième partie. Partie formidable et dense en même temps. À Colosse, il y a un combat. Il y a un combat pour la vérité qui a lieu. Et Epaphras va venir trouver l'apôtre Paul alors qu'il est emprisonné à Rome pour lui demander de l'aide. Et Paul, qui n'a jamais mis les pieds dans l'église à Colosse, va cependant adresser une lettre à ses frères et sœurs en abordant certains points capitaux. Et en particulier, dans cette épître, qui est Jésus-Christ ? Il y avait un enseignement qui plus tard sera le gnosticisme, et qui disait que finalement Jésus, c'est une émanation parmi d'autres de Dieu, c'est une créature, mais il n'est pas Dieu. Donc une négation du fait que le Fils, que Christ, que la parole est Dieu. Également, un enseignement selon lequel tout ce qui est esprit est bon, mais tout ce qui est matière, tout ce qui est corporel, alors là, c'est vraiment la déchéance, c'est mauvais, etc. Et donc, on ne pouvait pas concevoir que Dieu, qui est esprit, soit venu en chair, soit venu habiter corporellement parmi nous. On dit, mais non, la matière, c'est mauvais. Eh bien non. Dieu a créé la matière et Dieu a créé toute chose bonne et parfaite. Amen. Et Paul va donc insister dans cette épître sur la divinité de Jésus-Christ. Alors ce matin, frères et sœurs, nos yeux vont être tournés vers Jésus. Amen. Et il commence en disant une chose extraordinaire à propos du Fils. Au verset 13, il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous a pris des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, ce matin, je pose cette première question. Est-ce que je fais partie de ceux que Dieu a transportés dans le royaume de son Fils ? Ah, pour le savoir, il faut regarder la fin du chapitre. Est-ce que je suis réconcilié ? Parce que c'est par le Fils que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, qu'il est venu faire la paix, offrir la paix avec lui. Mais est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu ? Est-ce que j'ai saisi la réconciliation qui m'est proposée ? Et ici, il dit à ceux qui ont saisi la réconciliation, ce qu'ils étaient autrefois au verset 21, il dit « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Souvent, nous avons du mal en tant qu'êtres humains, et les gens que nous rencontrons autour de nous ont du mal à réaliser et à admettre leur condition vis-à-vis de Dieu. Vous dites alors, ça va bien entre Dieu et vous, vous avez besoin d'être sauvé, peut-être. Non, moi ça va bien, je suis croyant, je me conduis, j'essaye de mener ma vie correctement, ça va. Et vous dites, oui, mais la Bible nous dit que nous avons besoin de repentance, nous avons besoin d'une conversion, nous avons besoin d'un demi-tour, nous avons besoin d'un renversement. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, j'ai pas besoin, moi, ça va bien avec Dieu, je suis en règle, ça va bien. Il dit non, ça va pas. Tu es étranger et tu es ennemi par tes pensées et par tes mauvaises œuvres. Chaque être humain, il est ennemi de Dieu. Dieu nous a créés à son image pour porter son image, pour le refléter dans sa sainteté, dans sa perfection. Et l'être humain est loin de le refléter. L'être humain pêche. Et en péchant, il saccage le projet de Dieu, le plan de Dieu. C'est comme s'il crachait sur Dieu. Chaque péché, c'est un crachat au visage de Dieu. Et Dieu nous dit, mais tu es ennemi par tes pensées, par tes mauvaises œuvres. Déjà, tu ne connais rien de moi, tu es étranger. On est étranger. Tu ne me connais pas. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas qui je suis. Tu es étranger à ma sainteté. Tu es étranger à mon amour. Tu es étranger à ma perfection. Tu es étranger à mes projets, à mes plans. Et non seulement tu es étranger, mais tu es ennemi. Tu te conduis en ennemi par ta vie. Par ta vie indépendante de moi. Ben oui, indépendante de moi. Pourquoi ? Mais parce que tu es une créature. Je suis une créature, et le verset 16 à la fin me dit, tout a été créé par lui et pour lui. J'ai été créé pour le Fils. Amen. J'ai été créé pour lui, j'ai pas été créé pour moi-même, mais j'ai été créé pour lui. Et quand je vis ma vie sans qu'elle soit pour lui, ben, je suis étranger, je suis ennemi. Et j'ai besoin d'arrêter ça. J'ai besoin d'un moment dans ma vie où il y a un demi-tour, où je me réconcilie, où je dis, Seigneur, je suis étranger et ennemi, mais tu es venu, tu es mort pour moi, tu me proposes d'être réconcilié avec toi, et aujourd'hui, je prends la décision de vivre pour toi. J'ai été créé pour toi. Eh bien, aujourd'hui, je veux me remettre dans cette destinée pour laquelle tu m'as créé. J'ai été fait pour toi. Je veux vivre pour toi. Tant qu'un être humain n'a pas pris la décision de se repentir, de demander pardon à Dieu pour sa vie, ses péchés, et qu'il n'a pas pris la décision de faire ce demi-tour et de dire « Je veux vivre aujourd'hui pour toi, merci pour la réconciliation », eh bien, il continue d'être un étranger et un ennemi par ses pensées et par ses mauvaises œuvres. À quel instant est-ce que nous sommes transportés dans le royaume du Fils bien-aimé? Au moment où l'on se réconcilie par lui avec Dieu. Et c'est facile. Cette réconciliation, c'est pas beaucoup d'efforts, beaucoup de bonnes œuvres à faire. C'est pas de devenir un super héros qui se conduit de manière exemplaire pour pouvoir espérer que Dieu va le sauver. Pas du tout, c'est le contraire qui se passe. Je suis incapable. Je suis esclave du péché. Mais Christ est venu pour me délivrer. Alors si ce matin, vous dites, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que j'ai été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Je ne crois pas que je sois réconcilié avec Dieu. D'ailleurs, je ne me souviens pas d'un instant dans ma vie où j'ai pris cette décision. Vous pouvez le faire. Ce matin, vous pouvez tout simplement dire, Jésus, je veux être réconcilié par toi avec Dieu. Je veux vivre pour toi. Je te donne ma vie. Alors nous lisons donc à partir du verset 15 ce que Christ est. Et ce matin, le mot d'ordre que nous allons retenir, est exprimé c'est la fin du verset 18. Ça sera notre mot d'ordre ce matin, afin d'être en tout le premier. On le répète ensemble, afin d'être en tout le premier. Ce matin, on va réfléchir au fait que nous avons été transportés dans le royaume du Fils, afin qu'il soit en tout le premier. Le premier dans ma vie. Le Fils, verset 15. Le Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, les disciples disaient à Jésus, montre-nous le Père et ça nous suffit. Et Jésus répond aux disciples. Mais à Philippe en particulier, pourquoi me demandes-tu de voir le Père? Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu, invisible, esprit, eh bien, se révèle et perceptible dans le Fils. Il est cette image, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut palper, ce qu'on peut réaliser du Père invisible, le Fils le rend visible. Celui qui voit Christ voit le Père. Il est le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier-né de toute la création? Est-ce que ça veut dire qu'il est le premier à avoir été créé? Est-ce que le Fils est une créature? Ou est-ce qu'il est le Créateur? La suite nous l'explique. Parce que soit c'est le premier-né, c'est-à-dire le premier créé, soit le terme, comme ailleurs, nous dit qu'il est celui qui est au-dessus, il est celui qui a la prééminence, il est celui qui est autre. Et c'est ce que nous dit ce texte. Que signifie qu'il est le premier-né de toute la création? Ben, le verset 16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, les visibles et les invisibles. » Tout ce qui est matériel et tout ce qui est immatériel, tout ce qui est du domaine de l'esprit, hein, les anges sont des créatures spirituelles. Et à Colosse, il y en avait qui voulaient faire de Jésus-Christ une créature spirituelle parmi d'autres, mais une créature. Et ils disent, non, le Fils, ça n'a rien à voir. C'est lui qui crée. Toutes choses ont été créées en lui, par lui, pour lui. Tout a été créé par lui. Et le verset 17 nous dit quelque chose de formidable. Il est avant toute chose. Vous voyez toutes les choses? Ben avant, il est. Il est. Ça nous rappelle le « je suis ». Ce nom par lequel Dieu se fait connaître, l'Éternel, Yahvé, je suis, tout simplement. Oui, mais alors, cherche pas le commencement, cherche pas l'explication. Il est décrit par lui, en lui, pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Christ est le premier. Il est la tête, il est le chef de l'Église, on y reviendra. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Oui, le premier à ressusciter et à ne point mourir. Il y a eu des résurrections, mais ceux qui ont été ressuscités sont à nouveau morts. Mais Christ, lui, est ressuscité et il est les prémices, il est le premier-né, il est le premier des ressuscités, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute plénitude. Alors, nous avons besoin, en réalisant que le Fils est premier en tout, en réalisant que tout a été créé en lui, par lui et pour lui, et je rappelle à cet égard la Genèse et Jean que nous avons lu tout à l'heure, Comment est-ce que Dieu a créé le monde ? Par la parole. Dieu dit. Et cela est. C'est par la parole qu'a été créé le monde. Et l'évangile de Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était auprès de Dieu. Tout ce qui a été créé par elle, la parole. Et cette parole est faite chair. C'est faite chair et est venue habiter parmi nous. La parole. Le Fils. Le Fils est la parole. Et voilà pourquoi le Créateur nous dit ce texte de Colossiens, c'est le Fils. Il est l'artisan de la création et il est le but de la création. Tout a été créé pour lui, pour que toute plénitude soit en lui. Alors moi j'ai été créé pour lui, afin qu'il soit en tout le premier. Et là j'ai besoin de me poser la question, est-ce que Christ est le premier dans ma vie ? Afin qu'il soit en tout le premier. Il est le chef de l'Église. J'ai été créé pour lui, pour qu'il soit en tout le premier. Il m'a transporté dans son royaume pour être en tout le premier. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous sommes passés par la nouvelle naissance, si nous sommes devenus enfants de Dieu, alors nous avons besoin maintenant de nous poser la question, est-ce que je marche selon la destinée qui est la mienne, savoir faire que Christ soit en tout le premier. Et ça veut dire donc d'abord dans ma vie. Est-ce que il est le premier dans ma famille ? J'ai des enfants. Est-ce que dans l'éducation de mes enfants, il est le premier ? Est-ce que je parle de Jésus à mes enfants ? Est-ce qu'à la maison, on s'occupe de leur éducation, on s'occupe de leurs devoirs, on s'occupe de leur culture, on s'occupe de leurs activités sportives, on s'occupe de leur construire un avenir, de leur assurer des études, on s'occupe de tas de choses pour nos enfants. Est-ce que il est le premier ? Et nous nous souvenons de l'Ancien Testament, hein, qui dit, mais tu parleras à tes enfants, tu leur parleras le matin, tu leur parleras le soir au coucher, tu leur parleras quand tu seras en voyage, tu leur parleras quand tu seras dans la ville, tu leur parleras quand tu seras dans les champs. Est-ce que, si on vient dans mon foyer, est-ce qu'on va pouvoir observer qu'effectivement, dans ce que je transmets à mes enfants, je les éduque dans le Seigneur ? Est-ce que Jésus est le premier ? Dans mon couple. Et là, je m'adresse en particulier aux jeunes qui ont certainement des projets de mariage. Un bon mariage, c'est celui où on peut dire à deux, mon chéri, ma chérie, dans le couple qu'on va fonder, Jésus sera le premier. Amen. Si on ne peut pas dire, chérie, on va se marier et tout, on a des projets, on a plein de choses en tête, mais la première des choses, c'est que Jésus soit le premier dans notre vie. Amen. Ne vous, vous mariez pas. Ça sera raté. Si Jésus n'est pas le premier, on va le voir tout à l'heure, mais on passe à côté. Assurez-vous, les jeunes, de pouvoir prendre la décision, en vous mariant, de dire, est-ce qu'on a un objectif ? Est-ce qu'on veut décider ensemble que dans notre couple, dans notre foyer, Jésus sera le premier ? Évidemment, cela va sans dire, lorsqu'hélas, un jeune chrétien choisit pour conjoint quelqu'un qui n'est pas chrétien, Jésus n'est pas premier. L'amour qu'il a pour l'autre passe avant Jésus. Jésus n'est pas premier. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Jésus ne peut pas être premier dans mon couple si mon conjoint n'a pas été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Comment est-ce que c'est possible que Jésus soit premier dans ma vie, dans le foyer que je construis, si mon partenaire, si mon collaborateur de première main, celui qui est à mes côtés, s'il n'a pas été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, Jésus ne pourra pas être premier. Et la parole nous le dit. Est-ce que Jésus est premier ? Est-ce que Jésus est premier dans le temps ? Ah, du temps, on en a du temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Je me lève le matin, est-ce que Jésus est premier ? J'ai beaucoup de choses à faire, hein, ou pas ? Je fais ceci, je fais cela, je vais au travail ou je vais à la retraite, on y va, je pense. Puis à la fin de la journée, ben fou. Oh ben tiens, j'ai pas eu de rendez-vous avec Jésus. Je ne l'ai pas écouté. Je ne lui ai pas parlé. Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est premier dans notre vie si on passe pas de temps avec lui ? Ah, du temps, on en a pour beaucoup de choses, mais à un moment, on n'en a pas pour tout. Donc, il y a des choix à faire. Afin qu'il soit en tout le premier. C'est pour ça qu'il nous a transportés dans son royaume. Malheureusement, j'ai peur que souvent dans ma vie, dans notre vie, dans ma journée, Jésus, il soit plutôt le dernier, hein. Est-ce qu'il est le premier dans l'énergie que je mobilise ? Ah, je peux mobiliser de l'énergie pour des projets, ça peut être professionnel, ça peut être pour ma maison, ça peut être pour du sport, pour des passions, de l'énergie pour des voyages, de l'énergie. Est-ce qu'il est le premier ? Pour récolter mon énergie ? Est-ce que il est celui à qui je dis, Seigneur, j'ai de l'énergie pour plein de choses, mais je veux d'abord mettre de l'énergie pour toi. Ou est-ce que, soyons honnêtes, nous avons mis de l'énergie à des tas de choses et à la fin, on n'en a plus pour Jésus. Plus d'énergie pour Jésus. Peut-être on dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais encore avoir l'énergie peut-être de venir au culte. J'en avais pas dimanche dernier, mais ce dimanche, je vais trouver un peu de regain d'énergie peut-être pour venir au culte quand même. Ça sera ma part d'énergie que je te donne. Jésus n'est pas le premier. Est-ce qu'il est le premier dans mon argent ? Afin d'être en tout le premier. Vous savez, l'argent, ça parle du cœur, hein. Est-ce que dans ce que le Seigneur me confie comme bien matériel, comme outil, parce que l'argent est un outil, est-ce que Jésus est le premier servi ? Ou est-ce qu'en fait on met ici, on met pour cela, etc. On attend la fin du mois, puis on regarde, oh là là, il ne me reste plus grand-chose. Jésus dernier servi. Parce qu'on dit non, il y a des choix à faire. J'irai moins loin en voyage. Mais je veux que Jésus soit le premier servi. Je ne veux pas l'oublier avec mon argent. Posons-nous la question. Est-ce que nous avons plutôt une habitude de donner ce qui reste quand il en reste à Jésus, un peu comme s'il faisait la manche, vous voyez, il fait la manche, on lui donne la pièce. Où est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'il est le premier vers qui je me tourne quand je suis triste et que j'ai besoin de consolation? Est-ce que Jésus est le premier pour recueillir ma tristesse? Lorsque je suis en colère, que des choses m'énervent, est-ce qu'il est le premier pour prendre ce qui me met en colère? Lorsque je suis heureux, lorsque je suis content, est-ce qu'il est le premier vers qui je me tourne pour dire ma reconnaissance? Est-ce que Jésus est premier? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'est pas premier? Regardez le verset 17 et 16. Il dit: tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça, c'est très important. Parce que s'il n'est pas premier, s'il n'est pas là, les choses ne subsistent pas. Je vais l'exprimer un petit peu autrement. Voyez, il est le Créateur qui a créé tout notre univers, mais ça ne s'arrête pas là. Si notre univers continue de tourner, c'est parce qu'il subsiste en lui, l'Épître aux Hébreux nous le dit autrement, il soutient toute chose par sa puissance glorieuse. Ce n'est pas le cas du reste. Vous prenez un tableau de Picasso. Il n'aurait pas existé sans Picasso, on est d'accord. Picasso est le créateur de cette peinture. Seulement il est mort. Et sa peinture subsiste sans lui. La peinture de Picasso n'a pas besoin de Picasso pour subsister. La tour Eiffel n'a pas besoin de Monsieur Eiffel pour subsister. Elle a eu besoin de lui pour être conçue. Elle n'a pas besoin de lui pour subsister. Ni nos arènes à Arles. Par contre, le Fils, c'est fondamentalement différent. S'il n'est plus là, il n'y a plus rien qui subsiste. Prenons un passage qui va un petit peu nous éclairer en 2 Pierre. Pour ce jour du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer par rapport à notre terre, par rapport à cet univers matériel que nous connaissons? Parce que cet univers matériel que nous connaissons, il a besoin d'une une force cosmique pour tenir, pour être équilibré, pour tourner, une énergie qui tient les choses, qui tient les atomes. Eh bien, c'est le Fils qui tient toutes choses. Il est celui qui a créé et il est celui qui le soutient, qui le fait subsister aujourd'hui. Et au verset 2 Pierre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, avec craquement, avec explosion, j'ai envie de dire. Ça va péter. Parce que les trucs, notre univers matériel ne va plus tenir ensemble. Les éléments embrasés se dissoudront. C'est comme si les atomes qui constituent notre monde matériel, ça va se dissoudre, ça va s'évaporer, ça va exploser, ça va disparaître. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, hein, ça se dissout. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Peut-être ce passage nous aide à comprendre que c'est dans le Fils que toute chose subsiste. Il a tout créé et tout ce qui est créé subsiste aujourd'hui par lui. Mais s'il n'est plus là, s'il retire sa main, et c'est un chant d'enfant hein, que nous connaissons bien, où on dit « c'est lui qui tient le monde dans ses mains hein. ». Ben oui. Mais s'il enlève ses mains, le monde explose. Notre univers matériel, nous on croit que tout est pérenne et là et pour toujours. Hein. L'énergie qu'il soutient, c'est une personne. C'est la personne du Fils. C'est la personne divine. Quand le Fils n'est pas premier, et si le Fils n'est pas premier, alors les choses partent en miettes. Les choses explosent avec fracas. Et cela doit m'aider à comprendre ce qui se passe lorsque Jésus n'est pas premier dans ma vie. Quand Jésus n'est pas premier dans ma vie, qu'est-ce qui subsiste ? Les éléments de ma vie, plutôt que d'être des éléments que Christ assemble, qu'il tient dans sa main, qu'il rassemble, à qui il donne du sens, de la cohésion, de la cohérence. Ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie émotionnelle, des tas de choses. Lorsque Christ est premier dans ma vie, alors toutes ces choses-là, il les tient dans sa main et elles subsistent. Elles tiennent ensemble. Elles sont solides parce qu'elles sont dans la main du Fils. Mais quand dans ma vie, Christ n'est plus premier, alors il n'y a plus de cohésion. Ce qui donne la cohésion à ma vie, et son sens et sa tenue, sa teneur, c'est que Christ soit premier. Si Christ n'est pas premier dans ma vie, ma vie va partir en lambeaux. Ma vie va partir en miettes. Elle va perdre son sens. Elle va perdre son harmonie. Et c'est tellement dommage. Nous avons une chance formidable de pouvoir venir à Christ. Parce que c'est lui qui nous tire des ténèbres et du fracas pour nous transporter dans son royaume où notre vie, parce qu'il est le premier, est une vie réussie, est une vie pleine. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Et j'anticipe sur le chapitre 2, verset 10. Le verset 9 le répète, Colossiens 2:9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et du coup, parce que toute plénitude habite dans le Fils, le verset 10 est formidable, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Quand Christ est premier dans ma vie, eh bien j'ai tout pleinement en lui. Quand il n'est pas premier dans ma vie, il y a des morceaux de ma vie qui sont des déserts, qui sont des catastrophes, qui sont des champs de ruines. Mais quand je prends la décision et je dis au Seigneur, Seigneur, tu n'étais pas premier dans ma vie dans tel domaine, mais aujourd'hui je veux te redonner cette place afin que tu sois en tout le premier. Alors, parce que toute plénitude est en lui, moi aussi, j'ai tout pleinement en lui. Il y a un bonheur extraordinaire à mettre Jésus en premier dans ma vie. Et je dois, avec honnêteté, me placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que tu es plutôt le dernier ? Ou est-ce que tu es plutôt le premier ? On le voit vite, hein, quand on est avec nos amis, nos voisins, les gens. Est-ce qu'on parle de Jésus en premier ou est-ce qu'on en parle plutôt en dernier si on en parle ? C'est vite vu, hein ? Seigneur, est-ce que tu es le premier ? Alors, ça ne vient pas du jour au lendemain. Le fait que Jésus soit premier dans notre vie, c'est pas comme ça, de suite après cette réconciliation. J'ai été réconcilié, mais j'apprends à placer Jésus en premier dans ma vie. C'est ce que Paul explique. On revient au chapitre 1, Colossiens 1, et nous terminerons par là. Qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Quel est le travail de Paul ? Quel est le travail de Timothée ? Quel est le travail des pasteurs ? C'est le verset 28 qui dit. C'est que les chrétiens puissent avoir tout pleinement en lui, c'est qu'ils puissent goûter Christ en eux, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est le but. On devient, on met pas Christ en premier du jour au lendemain dans tous les domaines de notre vie, c'est pas vrai. Mais il y a tout un travail qui se fait, et Paul travaille auprès des chrétiens pour cela. Il instruit, il exhorte avec sagesse, il combat, il dit c'est à quoi je travaille, verset 29, en combattant avec sa force. C'est pour faire quoi ? Pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait, devenu accompli, devenu mûr. Il y a une croissance. Mais est-ce qu'on est tourné vers la croissance ? Donc, ne soyons pas découragés. Christ n'est certainement pas le premier dans notre vie, dans tous les domaines. Mais par contre, est-ce que je suis tourné vers ce but, cet objectif, que je puisse être présenté à Dieu comme un homme, comme une femme devenu parfait en Christ? Est-ce que je veux que Christ soit de plus en plus le premier dans ma vie? Et peut-être là on peut dire, c'est vrai que ça fait un moment que je ne me soucie plus trop de savoir si Christ est le premier dans ma vie. Et puis ça part en cacahuète. Il n'y a plus de teneur, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de cohésion. J'ai perdu le fil, j'ai perdu le nord en fait. Je me rends bien compte que parce qu'il n'est pas premier, parce que je ne me soucie plus qu'il soit le premier, je suis à côté de la plaque. Ben Seigneur, aujourd'hui, je veux me recentrer sur toi. Je veux à nouveau me souvenir que tout a été créé pour toi. J'ai été créé pour toi pour que tu sois en premier dans ma vie. Et je veux être émerveillé en te mettant en premier, de découvrir et de goûter jour après jour que j'ai tout pleinement en toi. Nous allons prier. Peut-être, pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux fermés, vous dites, vous voulez dire au Seigneur, Seigneur, tu es plus premier dans ma vie depuis un petit moment. Je le sais au fond de mon cœur, il y a d'autres choses qui ont pris ta place. Tu es en deuxième, en troisième, souvent en dernier. Je te demande pardon pour ça. Et puis j'en suis pas heureux. Tu m'as transporté dans ton royaume. Alors ce matin, je veux me remettre dans cette dynamique, dans cette ligne de mire, pour progresser, pour que tu deviennes de plus en plus le premier dans ma vie. Tu vas me montrer des domaines qui ont besoin de progrès. Si ce matin vous voulez dire cela au Seigneur et vous voulez que je prie pour vous, et vous voulez marquer cette décision de manière un peu plus particulière, alors je vous invite à lever la main pour dire: Seigneur, je veux te mettre en premier dans ma vie parce que je me rends compte que ça fait un moment que ce n'est plus le cas. Oui, je vois vos mains. Oui. Oui. Seigneur, tel domaine de ma vie, je t'ai enlevé de la première position et je le sais très bien. Je veux t'y replacer. Seigneur notre Dieu, tu as vu les mains qui se sont levées, mais aussi celles qui ne se sont pas levées. Tu vois nos cœurs. Nous voulons te louer, te remercier parce que nous avons tout pleinement en toi. Nous voulons te louer parce que lorsque tu es en premier dans notre vie, c'est formidable. Les choses subsistent en toi. Elles ont un sens, elles ont une cohérence. Et nous avons toute ressource en toi parce que en toi il y a toute plénitude. Seigneur, tu vois nos cœurs. Nous voulons te demander pardon pour les domaines où tu passes en dernier le plus souvent. Tu as vu ce désir des cœurs de progresser. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, tu aides ceux qui ont levé la main à combattre le bon combat et à te mettre à la première place, là où tu leur montreras. Seigneur, donne-leur de goûter toute ta plénitude en faisant ainsi, toute la beauté de ton royaume, tout ce mystère de toi en nous, l'espérance de la gloire. Merci pour cet héritage, ce royaume dans lequel tu nous as transportés. Au nom de Jésus.